Bonjour, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, le Canu Info de ce lundi 2 février 2015, avec Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex. Eh bien, nous allons aborder l'actualité internationale, nous la rendrons peut-être un peu européenne pour commencer aujourd'hui, avec... le sujet central, la Grèce, bien sûr, mais on va voir que ça déborde le sujet à différents titres, à la fois en géopolitique et dans les manifestations dans d'autres pays comme l'Espagne. Ça déborde largement. Robert, je te laisse présenter un petit peu plus avant.
Oui, effectivement, puisque les responsables grecs, et notamment le ministre de l'économie, Yanis Varoufakis, a pris son bâton athénien, puisque peut-être de marathonien, il lui faudrait bien sans doute un marathon pour faire aboutir quelque chose qui concernerait la dette grecque. Toujours est-il qu'il est, depuis hier, il est en Europe, alors il fait le tour des propriétaires de la Grèce à travers les 300 milliards de dettes accumulées par ce pays-là. Demain, je crois qu'il aura rendez-vous avec Hollande et puis toute une série de responsables politiques européens et puis à Bruxelles et puis voilà. Alors, ce qui est important de noter, c'est que sur le fond. Le nouveau gouvernement et Tsipras ont bien distingué le volet des réformes sociales qu'ils mettent immédiatement en piste de la discussion autour de la dette qui, elle, prendra sans doute beaucoup plus de temps. On s'y attendait, c'est-à-dire que l'idée de départ, on ne paiera pas, certes, ça reste un slogan, mais les Grecs, par réalisme, savent qu'il faudra quand même en payer au moins une partie de cette dette, et puis l'essentiel, ce sera d'obtenir le rééchelonnement des taux d'intérêt plus bas, beaucoup plus bas que le 10% par exemple qui touche les obligations. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que l'onde de choc, elle est importante et en fait elle recoupe déjà toute une série de mouvements sociaux en Europe. Et on dira que c'est peut-être plus dans l'Europe du Sud, enfin un Sud qui monte assez haut, qui monte jusqu'à la Belgique par exemple, et même l'Allemagne. Donc c'est presque toute l'Europe qui est concernée par l'onde de choc, qui est amplifiée par cette victoire. Sur le plan global, par exemple, on a aujourd'hui une position qui était déjà donnée par Syriza dans son programme, à savoir la convocation le plus rapidement possible d'une conférence européenne sur la dette. Alors la dette en général, principe de la dette, et ensuite selon les États. Et aujourd'hui, on savait déjà que les Irlandais soutenaient cette idée. Ils l'avaient déjà avancée eux-mêmes parce que y a de gros problèmes. Et par exemple, à la demande expresse du FMI, les Irlandais s'étaient vus sommés de mettre fin à la gratuité de l'eau. Et alors là, ça déclenche effectivement un grand mouvement social et de masse. Et par exemple, on a appris aujourd'hui que, mais c'est pas nouveau, que Jerry Adams, pour le compte du Sinn Féin, appelle lui aussi que toutes les composantes anti-austéritaires d'Europe exigent la convocation immédiate de cette conférence Europe sur la dette. Bon, en Espagne, eh bien, on a vu l'énorme manifestation, plus de 100 000 personnes à Madrid samedi, à l'appel d'Ademos, de Podemos, avec ce slogan qui surprend pour ceux qui ne comprennent pas l'humour, le tic-tac, ça veut dire tic-tac, le décompte pour le gouvernement conservateur Rajoy est avancé. Donc tic-tac pour les Espagnols. On compte beaucoup sur la fin de l'année et leur victoire pour, disons, conforter le premier succès des Grecs. Contrairement à ce qu'on pense en Allemagne, malgré le plein emploi annoncé, on sait que l'emploi, il est plein, mais en fait, avec effectivement des systèmes d'emploi sous-payés que même certains pays d'autres pays d'Europe refuseraient, malgré les déclarations tonitruantes et, on va dire, autoritaires de Schäuble et de Merkel, eh bien, le mouvement social est bien là. Il y a, par exemple, des arrêts, par exemple, ininterrompus. C'est pas souvent, c'est pas forcément un mouvement globalisant, mais qui fait boule de neige au sein de la métallurgie. Et ce qui est important, c'est que le DGB, qui est ce grand syndicat, longtemps co-gérant avec le pouvoir socialiste, ben le DGB a salué les avancées sociales à travers le gouvernement de Tsipras et donc appuie cette démarche anti-austéritaire. On n'en entendait pas moins de lui, mais il se démarque à fond des socialistes allemands et donc de cette position des Allemands qui disent, qui défendent la thèse selon laquelle il n'est pas question que les pays européens, à commencer par l'Allemagne, payent les erreurs, et encore c'est un euphémisme erreur, parce qu'il y a des mots plus insultants que ça pour qualifier la situation de la Grèce. Au Portugal aussi, eh bien, on avait le mouvement actuellement contre les privatisations, et notamment ce qui est en cours actuel ces jours-ci, c'est la privatisation de la compagnie aérienne TAP. Et donc là, il y a un grand mouvement qui se déclenche pour dénoncer cette privatisation en cours. Voilà, et puis bon, on n'a pas forcément l'ensemble des mouvements sociaux, parce que on sait que dans les pays de l'ex-Union soviétique, il y a des mouvements sporadiques comme ça. Mais ils sont, on va dire, le rideau de fer, il s'est retourné dans l'autre sens, c'est-à-dire que le rideau de fer, il empêche, il est monté par les pays bruxellois pour que l'information venant de ces pays en ce qui concerne les luttes sociales soit le moins possible répercuté de ce côté-ci. On peut dire encore d'autres choses et tout, si ouais, tu veux, peut-être des choses à ajouter.
Moi, je voulais faire apparaître le parallèle entre la Grèce et l'Espagne, c'est-à-dire ce rejet de la Troïka à la fois en Grèce et en Espagne. Les Espagnols ont appelé leur manifestation la marche du changement. Hein. Donc, ils vont visiblement dans l'espérance d'avoir un résultat électoral aussi spectaculaire que celui que les Grecs ont obtenu. C'est pas encore gagné, mais cette manifestation qui a quand même réuni plus de 100 000 personnes était sans slogan, sans thème, sauf sortir la casta. La casta, c'est les partis traditionnels de droite et de gauche, PP et PSOE, au pouvoir depuis 35 ans. Ben, en Grèce, finalement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont eux aussi sorti la casta, ces socialistes et ces partis de droite, qui depuis peut-être plus de 35 ans encore en Grèce, dirigeaient le pays pour l'amener là où ils l'ont amené. Donc voilà, ben on attend les résultats de ce marathon européen de Xipra, et puis y a tout le monde cambre sur des positions très arrêtées, mais après, d'une manière ou d'une autre, il va falloir négocier. On peut dire aussi que les Grecs font clairement apparaître dans leur déclaration qu'ils ne souhaitent pas sortir de l'Europe. Ils sont comme nous et comme beaucoup, ils veulent l'Europe, mais ils veulent une autre Europe que celle des financiers et des banquiers. Ils sont, comme ici on le réclame depuis plus de 20 ans, ils veulent une Europe sociale, ils veulent une Europe harmonisée fiscalement, administrativement et économiquement. Et bon, ben, l'Europe qu'on nous a construit et qu'on continue de nous fabriquer avec des Juncker à la tête n'est pas ce type d'Europe-là. Alors, est-ce que les populations de tous les peuples de tous les pays que tu as évoqués tout à l'heure vont arriver à faire basculer un rapport de force en faveur d'une autre Europe? On peut dire au moins aujourd'hui que c'est pas encore gagné, mais ça en prend un tout petit peu le chemin.
Avec beaucoup d'humour, les Grecs disent, mais on est un tout petit pays, bon, un peu plus de 2% du PNB européen. C'est pas à nous à essuyer les plâtres, on l'a déjà suffisamment fait, l'essuyage des plâtres, à nous de sortir de l'euro, que des gros pays sortent, et puis on verra ensuite, et ils pointent du doigt l'Italie, la France, ils ont qu'à sortir de l'euro, et puis c'est à eux d'abord de le faire, s'ils pensent que vraiment l'euro, c'est... Mais nous on suivra, mais pour l'instant on veut pas être une deuxième fois victime encore de cette situation d'austérité et dans ce pays, la Grèce. À propos, ce que je voulais ajouter aussi, c'est à propos de l'effacement de la dette. Alors bon, l'idée globale, c'est qu'une partie de la dette sera effacée et l'autre partie sera renégociée au niveau d'un calendrier qui s'étalera. Et avec des taux, on l'a dit tout à l'heure, avec des taux infiniment plus bas que ceux qui sont de quasiment usuraires actuellement. Et on rappelle qu'en 1953, la dette de guerre de l'Allemagne avait été effacée. Mmh. Et ça, on l'oublie un peu trop, et les Allemands eux-mêmes l'oublient un peu trop. Enfin, du moins, tous ceux qui sont du côté de Merkel et de cette poursuite de politique austéritaire qui profite largement à l'Allemagne. 1953, on efface la dette de guerre de l'Allemagne, et dans cette dette de guerre de l'Allemagne, il y avait une partie qui devait aller à la Grèce. Et donc, ce qu'aurait dû toucher la Grèce à cette époque comme dommage de guerre, eh bien, ils n'en ont jamais vu les couleurs. Et on se souvient combien la dernière année de la guerre en Grèce, notamment contre les nazis, a été violente dans un pays qu'il faut le rappeler, effectivement, il y a une configuration qui n'est pas celle de la Belgique, hein, c'est pas tout plat, et donc qui a produit à la fois beaucoup de morts et beaucoup de dégâts.
Voilà, un autre sujet qui est aussi de l'actualité chaude, qui provoque pas mal de morts et pas mal de dégâts par les jours qui courent, c'est la situation en Ukraine où les affrontements continuent autour de la zone du Donbass, donc avec cette attaque vendredi sur Mariupol, 24 morts. Il semble que ça se soit un peu calmé, mais ça se reporte ailleurs. Les autonomistes aspirant à conquérir les deux tiers de la région qu'ils estiment leur revenir, et pour le moment, ils n'en occupent qu'une partie. Alors, aider, c'est le moins qu'on puisse dire, à la fois en armement et en hommes, semble-t-il, par les Russes. Du coup, on commence à entendre parler, ça c'est l'affrontement qu'on avait énoncé ici depuis le début de l'affaire, d'une intervention des Américains dans ce conflit, et on va se retrouver à une chose qu'on a bien connue en d'autres temps, un affrontement Russie-URSS-Amérique, sous forme d'une aide militaire. Il serait question, peut-être pas d'envoyer des guignols, mais de fournir 3 milliards de dollars d'armement à l'Ukraine, au motif qu'ils ont des fusils qui sont beaucoup moins top niveau que ceux des gens qui sont en face et qui semblent équipés tout de frais. Alors, on en est là ce soir. Est-ce que cette aide souterraine a déjà commencé? C'est pas impossible, puisque quand on en parle comme ça, c'est peut-être que quelque chose se fait. En tous les cas, les négociations, les pourparlers qui avaient lieu à Minsk en fin de semaine dernière, un petit peu sans doute pour la façade, tout le monde voulant donner bonne figure, eh ben n'ont rien donné, ils sont quittés sur un constat d'échec, et les affrontements continuent avec des villes où Donetsk, par exemple, où il y a 300 000 habitants qui se terrent comme ils peuvent dans leurs caves, puisque de temps en temps, des rafales de mortiers sont balancées un peu au hasard sur des bâtiments. Et on sait que, par exemple, dans la journée de samedi, ils en ont reçu 120, quoi. Donc, ça, quand ça tombe mal, ça fait forcément des morts. Et ça terrorise la population qui, même si elle est ni pro-russe, ni pro-Kiev, voudrait que ça s'arrête, quoi.
Oui, on ne comprend pas bien, d'ailleurs, cette déclaration américaine. Parce qu'il y a... Normalement, ça devrait passer par l'OTAN, d'autant que l'OTAN est à fond derrière Kiev. Alors pourquoi les Américains passeraient-ils comme ça par-dessus l'OTAN pour intervenir dans un marché d'armes? Ça paraît... Est-ce que Obama a lancé ça pour... donner plus de force à ce qui lui est reproché, c'est d'être pas assez combatif, guerrier dans cette affaire-là. Et on peut penser que il y a sans doute là un calcul pour finalement, comme tu l'as dit, les armes, elles arrivent déjà, elles arrivent par l'OTAN en général. Et sur le deuxième point, on va rappeler que c'est clair, pour les Russes maintenant, stop, on peut dire stop OTAN. Là-dessus, maintenant, ils sont très clairs et ils laissent bien apparaître qu'ils s'engagent beaucoup de plus en plus avec les séparatistes parce qu'ils ne veulent pas qu'à leurs frontières, l'OTAN vient s'installer, surtout avec des gens peu sûrs, avec effectivement une Ukraine affaiblie depuis tout le temps, avec une histoire pas claire non plus. Et donc, l'encerclement de la Russie pour Poutine et le gouvernement russe, c'est fini. Il faut que ça s'arrête, et pour eux maintenant, s'il n'y a pas une négociation garantissant, disons, une Ukraine, pas forcément neutre, mais qui n'adhère pas à l'OTAN, dans une négociation internationale, eh bien, ça va continuer comme ça. Ils vont lutter militairement jusqu'à ce qu'un accord intervienne pour que ce soit vraiment décidé que l'Ukraine n'ira pas à l'OTAN. Ce qui est d'ailleurs, la plupart des Européens sont divisés là-dessus, mais en même temps, ils refusent de prendre cette décision.
Oui, l'impression d'un certain attentisme du côté de l'Union Européenne. Allez, on parle peut-être un peu de l'Afrique aussi, où il se passe, on parlera de l'Afrique, on parlera de l'Irak aussi, où il se passe des choses avec Boko Haram, qui cherche à étendre son influence et son pouvoir sur des régions, et un semblant d'organisation au niveau de l'Union africaine qui voudrait coordonner les actions des pays concernés, le Nigeria, le Tchad, pour endiguer cette avance. On peut penser que ce sera pas facile parce qu'il faut des moyens importants qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne veulent pas mettre. Et puis, même s'il y a des combats sporadiques à un endroit donné, une ville prise, une autre reprise, quelques bombardements, c'est pas une situation qui est clairement en faveur de l'un ou de l'autre pour le moment, quoi.
D'autant que le Nigeria, je crois, est en campagne électorale. D'ailleurs, je crois que le président sortant, Jonathan, c'est ça, a échappé à un attentat.
Ouais, je n'ai pas vu ça. Aujourd'hui, tu dis ?
Oui, c'est une information de ce soir. Oui. Mm-hmm. Mais enfin, qu'ils sont en campagne, c'est pas, on le savait, mais je veux dire, faire une campagne, évidemment, ça ne doit pas être simple dans un contexte de ce type-là. Et les pays autour du lac Tchad, effectivement, essayent de se regrouper et puis de développer avec l'Union africaine une riposte qui soit à la hauteur. Mais là, je sais pas, c'est pas. Je veux dire que. On pourrait se dire, tiens, pourquoi les Américains ne donnent pas plutôt des armes à cette coalition anti-Boko Haram qui en a bien besoin, elle aussi.
Parce qu'il n'y a pas les Russes derrière.
Oui.
À l'est du pays. On remonte en Afrique un petit peu, enfin on n'est même plus en Afrique, on est au Maghreb. La Tunisie vient de se doter enfin d'un nouveau gouvernement, 3 mois après les législatives. Et le parti pseudo-laïque qui constituait ce gouvernement, finalement, mais n'est pas suffisamment majoritaire pour gouverner tout seul, passe une alliance avec Ennahda, qu'on avait cru un moment écarté du pouvoir tunisien et qui se retrouve intégré avec quelques représentants dans le gouvernement. Ennahda, donc parti islamiste. Alors, on va voir si la mayonnaise va prendre, comme on dit, dans ses frères ennemis et a priori incompatibles d'humeur.
Oui, pour l'instant, la seule avancée positive depuis la révolution, c'est les libertés. Bon, maintenant, on a vu qu'aussi... avec les dernières élections et le parti gagnant, il y a un retour de gens qui ont servi Ben Ali.
Pour l'instant, oui, le Premier ministre en tête, là.
Oui. Oui, et bon, il y a une constitution, il y a un état de droit qui se crée. Ceci dit, sur le plan social et économique, c'est de pire en pire. Hein. Je crois que la Tunisie, de ce point de vue-là... alors bon, elle fait appel à, elle aussi à l'Union européenne, qui a déjà envoyé de l'argent, mais ça ne va sans doute pas longtemps permettre de bloquer l'impatience populaire.
Oui, un grand souci, c'est aussi de relancer le tourisme qui a pris un petit peu peur ces derniers mois, quoi. Recréer de la confiance pour faire venir les touristes allemands, français, anglais et autres. À propos de l'Afrique, j'aurais dû le dire tout à l'heure, je n'ai pas noté, se déroule un sommet de l'Union africaine en Éthiopie, à Addis Abeba. Donc c'est cette Union africaine qui, alors depuis hier, depuis dimanche ou samedi, est présidée maintenant par Mugabe, président du Zimbabwe. On va voir si lui arrive à avoir des idées et à convaincre ses collègues. Donc ils ont l'idée de former une force multinationale de 7500 hommes avec 5 pays contributeurs. Enfin, on sait qu'avec ces pays africains, c'est toujours difficile de réunir les moyens qui sont nécessaires à de tels objectifs.
Oui, c'est ce qu'on disait à partir de Boko Haram, et puis il n'y a pas que Boko Haram qui pose des problèmes dans la région.
Allez, Irak, Kurdistan, alors grande manœuvre plus autour des Kurdes que des Irakiens dans la région, parce que donc les Kurdes ont réussi à reprendre cette ville près de la frontière de Kobané. Un peu aussi les bombardements d'avions militaires ont fait que, semble-t-il, maintenant les combattants de l'État islamique ont dû reculer et abandonner toute la ville qui est prise en main par les Peshmerga. Du coup, ils ont déporté leur action en d'autres régions pas toujours avec un bonheur, puisque sur Mossoul et sur Kirkuk, alors Kirkuk, ils ont lancé une affaire, une attaque, en profitant d'un brouillard favorable, et pendant un moment, ils ont réussi à déborder les combattants kurdes qui... Kirkuk, qui défendent des installations gazières et pétrolières là-bas. Mais finalement, le temps se levant aussi, les avions américains et autres ont pu reprendre leur bombardement et ils ont regagné le terrain perdu. Donc, pour le moment, c'est des situations, semble-t-il, où les combattants de l'État islamique sont plutôt à la peine qu'à la conquête, mais leur combativité, on le voit bien avec cette attaque de Kirkuk, reste forte et intacte.
Oui, sauf qu'il faut rappeler que l'État islamique, comme son nom l'indique, est basé sur une interprétation radicale et totalitaire de l'islam, c'est-à-dire que la mort est une délivrance, donc les martyrs vont être nombreux encore et provoquer sans doute beaucoup de d'autres morts en face, aussi bien en Irak qu'en Syrie.
À propos de l'État islamique, il y a aussi cette exécution d'un journaliste japonais, hein, ça fait deux en une semaine, un certain Kenji Goto qui était parti au mois d'octobre un peu à la recherche de son compagnon qui avait disparu, arrêté, et lui aussi en Syrie s'est fait piéger. Et donc, est-ce que c'est des prétextes fallacieux? Est-ce que c'est vraiment que le chantage lancé par l'État islamique d'obtenir une libération et sans doute des fonds en échange de la vie de ce journaliste n'ont pas fonctionné? Ou est-ce que c'est tout simplement dans la politique de communication d'asséner comme ça périodiquement des assassinats barbares pour terroriser le monde entier? Tous les cas, c'est ce qu'ils ont fait, semble-t-il, avec ce deuxième journaliste. Les Japonais sont un peu dépités, les Jordaniens sont mis en cause, mais eux se défendent en disant qu'ils ont aussi un pilote d'avion qui est retenu et qu'ils auraient aimé l'échanger contre ce journaliste, et éventuellement aussi avec une militante djihadiste qu'ils ont arrêtée. Alors, on entend parler pour le moment de menaces d'exécution des prisonniers du djihad par les Jordaniens si la confirmation de l'assassinat était produite.
Oui, sans vouloir justifier quoi que ce soit, mais les deux cas sont différents. D'un côté, on a un journaliste qui, effectivement, semble-t-il, on l'a pas, semble-t-il, accusé d'être un espion de l'Occident, etc. Bon. Et de l'autre côté, il y a un soldat jordanien qui venait bombarder l'État islamique. Donc, effectivement, les deux situations de ces deux personnes condamnées à mort par l'État islamique n'est pas la même, c'est évident. Mais évidemment, ceci ne justifie en rien cela.
Voilà, d'autres sujets internationaux, Robert, tu voulais...
Non, je regarde, ma page est blanche pour le
suite. Il y a des petites choses comme Bahreïn qui utilise la déchéance de nationalité 72 d'un coup, là ils ont fait une charrette, pour nuisance aux intérêts du royaume. C'est une façon pour le royaume de se débarrasser des opposants chiites au pouvoir en place. Un petit peu d'instrumentalisation donc de ce côté-là. Et puis la Russie, on peut donner cette nouvelle qui est un incendie à la bibliothèque universitaire de Moscou qui, paraît-il, est une vraie catastrophe. Les Russes parlent de Tchernobyl culturel et en matière de Tchernobyl, ils sont experts. Donc est-ce que c'est vraiment de cette ampleur-là? On ne sait pas. Puis, petite nouvelle aussi sur le problème du blé en Russie. L'année a bien donné, ils ont fait 20% de production en plus que l'année précédente, 105 millions de tonnes. Seulement le problème, c'est le prix de ce blé qui, avec la baisse du rouble, donc devient très cher. Et que font les producteurs? Ils sont comme notre FNSEA. Hein. Au lieu de vendre aux Russes, ils cherchent à vendre à l'étranger en dollars. C'est beaucoup plus intéressant. Alors, Poutine a pris une mesure visant à taxer à 35 euros la tonne de blé exporté, ce qui a eu l'air de mettre en colère les producteurs qui parlent de perte de compétitivité internationale dans ces conditions-là. L'idée aussi du gouvernement russe, c'est de faire baisser, que le blé reste dans le pays, que la quantité offre fasse baisser les prix. Voilà, mais c'est un peu, c'est une économie libérale, le marché régit aussi tout ça, et les producteurs russes, avant leur patriotisme, font passer leur intérêt à acquérir des dollars. Allez, petite pause musicale, on va la faire avec une chanson grecque, Sotoria Bellou. Je ne parle pas le grec, donc elle est composée par Georges Mitsakis. Mais le titre m'a paru sympathique et en accord avec l'actualité, Le jeune gars qui vient d'entrer. Le titre de la chanson, bien drôle, Le jeune homme qui vient d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez à qui on peut penser. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce 2 février 2015, et nous abordons notre rubrique nationale. Allez, Robert, à toi.
On va d'abord évoquer la poursuite de la discussion parlementaire sur le projet conservateur, le projet de loi d'Emmanuel Macron, et relever la remarquable synergie entre Valls quand il est en Chine et Macron quand il est au Parlement français, parce que pendant que Macron détricote tout le contenu social Bon, il y a beaucoup de choses aussi, mais il y a quand même des attaques sur le droit social dans le projet Macron. Eh bien, Valls, aux Chinois, il leur dit, mais venez avec votre argent chez nous, parce que on peut facilement licencier, les protections de l'emploi chez nous sont inférieures à celles que vous pouvez rencontrer en Allemagne. Le temps de travail est plus important que dans la plupart des pays européens. La productivité des travailleurs français est de bonne qualité, c'est reconnu par les experts, etc. Donc il a vendu effectivement déjà le total détricotage des protections sociales des travailleurs français, et il les a vendus aux Chinois, qui vont sans doute rappliquer. On sait qu'ils ont déjà fait, par exemple, quand ils mettent en partie leurs capitaux dans PSA, mais bon, ça c'était l'énorme iceberg. Mais ça va continuer. Mais c'est surtout ce côté, c'est vraiment la preuve que ce gouvernement, à juste titre dénoncé par la gauche de gauche, une partie du PS, les Verts et puis les syndicats, est un gouvernement ultra conservateur et complètement articulé sur la mondialisation et le capitalisme sauvage. Et effectivement, cette loi Macron, c'est ce que pensent, c'est ce qu'espèrent les opposants, donc que j'ai cités, par exemple les gens du Front de Gauche, les gens des Verts, et puis une très forte minorité des socialistes vont s'y opposer, commencent de s'y opposer déjà. Et oblige Macron à reculer, mais tout le monde a bien compris que, au bout du compte, ce qu'il fera reculer, c'est effectivement des mobilisations populaires. Il y en a eu une la semaine dernière, assez modeste, à l'appel de la CGT, je crois, et aussi de Solidaires, mais tout comme ça a été dit au cours de ces journées-ci. La poursuite de cette campagne de dénonciation du gouvernement Valls, est un enjeu important, qui a pendant 15 jours, 3 semaines, a été masqué par le one-man show de Hollande à partir des tragiques événements qu'on sait, mais qui maintenant, le masque, comme on dit traditionnellement, est tombé et la vraie nature de ce gouvernement réapparaît au grand jour.
Voilà, autre sujet, une commémoration, important de le signaler, le 2 février 45, donc 70 ans jour pour jour, étaient promulguées les ordonnances sur la justice des mineurs, qui sont toujours en vigueur, même si elles ont subi 37 modifications, avec toujours des améliorations réclamées à apporter, entre autres autour de la thématique de remettre l'éducatif au centre de ses préoccupations et de supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs qu'avait institué Sarkozy. Ça, c'est pas encore fait. Il paraît que c'est dans les projets du pouvoir.
J'évoquais tout à l'heure effectivement la réaction politique de l'opposition. Alors, on retiendra le discours, ou plutôt c'était un entretien de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, dans le journal du dimanche, je crois, où il a rappelé que, bon, pour lui, c'était la 6e République, que lui était disposé pour 2017, et aussi surtout que le parti de gauche va mettre en place à partir du 20 février, c'est-à-dire pendant toute la campagne des départementales, il va mettre en place des tentatives de créer des assemblées de citoyens. Bon, c'était depuis longtemps dans les programmes du Front de Gauche. À côté, il y avait la composante Ensemble du Front de Gauche, dont on sait qu'elle regroupe un certain nombre de gens venant de petits groupes comme la gauche anticapitaliste, les alternatifs, la fédération alternative FAS et puis quelques autres. Et a donc hier et samedi constitué véritablement sa composante en tant que groupe membre, troisième membre du Front de Gauche, aux côtés du Parti communiste, aux côtés du Parti de Gauche. Et eh bien, à cette occasion, ça a été aussi la possibilité de lancer l'idée, pas lancer l'idée, ça existe déjà, des chantiers d'espoir. Alors là, les chantiers d'espoir, effectivement, c'est un peu, tout ça se recoupe. C'est la mobilisation populaire, qui va au-delà de cette gauche, Front de Gauche, et qui notamment inclut des associations comme aussi bien ATTAC que des syndicats comme la CGT. Ce que, toujours au chapitre de la gauche de gauche, le NPA, nouveau parti anticapitaliste, tenait son congrès cette fin de semaine. Bon, c'est déjà, le NPA est un parti qui a perdu beaucoup de plumes, de 2000 annoncés à sa création, de 10 000 annoncés à sa création, et il n'a plus guère que 2000 adhérents au grand maximum actuellement. Alors les deux lignes politiques qui marquent finalement le NPA, avec forcément du coup, parce que comme ce sont deux lignes qui s'équilibrent assez, une certaine paralysie. Alors il y a la ligne de maintien d'une indépendance, de ne pas passer de contrat, évidemment avec le PS ça va de soi, mais pas non plus avec le Front de Gauche, parce que le Front de Gauche est un parti qui appelle au gouvernement et qui est prêt à faire des concessions, c'est ce que dit le NPA. Alors une ligne dite ligne de l'indépendance, indépendante, qui fait à peu près, ben oui, presque la moitié des votes de ce congrès, et puis l'autre ligne qui appelle au contraire à un rassemblement et puis à faire des propositions en permanence pour effectivement amener toute la gauche de gauche sur des positions qui sont pas forcément les leurs, c'est-à-dire qu'il y a des compromis, mais rester dans cette idée de gauche, plutôt y adhérer d'une manière plus forte. Et les leaders, eh bien, c'est Olivier Besancenot qui mène ce positionnement, avec d'ailleurs Christine Poupin qui est la porte-parole principale de... Donc au niveau du NPA, rien n'est réglé. Ça va être un peu au coup par coup, si on comprend bien. Voilà pour cette page politique. C'est pas tout à fait... On est dans la politique naturellement, puisque à partir de demain et pour 2 jours, ce qu'on appelle le Parlement de la CGT, bon, ça regroupe à peu près pas mal de gens, va se décider sur la nouvelle composition de sa direction, et avec le remplacement de l'ancien secrétaire par Philippe Martinez. Bon, il semble que l'accord est pratiquement fait, les noms sont connus, 10 personnes, 5 hommes, 5 femmes, et donc, mais il faut un vote aux 2/3 pour que ça passe. Et les votes précédents, qui étaient en faveur de Philippe Martinez, n'avaient produit que moins de ces deux tiers, 57% seulement. Voilà, au rayon politique, j'ai encore deux petites informations que je donne, mais tu les avais peut-être aussi. C'est d'une part Vénitieux, ben naturellement, on en parle du côté de Lyon, parce que il y a toujours plane dans l'air cette idée que la dernière élection municipale serait annulée, parce que, curieusement, c'est parce que des gens d'extrême droite ont commis un certain nombre de malversations, soit dans le cadre de cette préparation de campagne, soit antérieurement. Et du coup, le Michel Picard et ses amis communistes qui avaient été réélus, mais pas tout seuls, avec des socialistes et des verts, protestent contre cette menace qui finalement pénaliserait ceux qui, effectivement, n'ont rien à se reprocher. Tu voulais peut-être parler du Doubs, là, dont tu es pas loin, tu es presque un voisin.
Je vais prendre un petit peu le relais. Ben oui, Audincourt, on connaît. Oui, Audincourt, on entend dire que c'est la campagne. Oui, c'est comme la campagne, c'est Peugeot, hein, comme tout 50 km autour de Montbéliard, Peugeot. Eh bien, Peugeot a voté Front National, ou plutôt les déçus de Peugeot, puisqu'il y avait des législatives partielles qui n'ont pas engendré une adhésion incroyable, 60% d'abstention. C'est l'inverse des à deux ans où il y avait eu 60% de participation. Arrive en tête dans cette quatrième circonscription du Doubs, le Front National avec 32,6, en ayant perdu 1000 voix, évidemment, comme le taux de participation est moindre, il y a des voix en moins. Le deuxième, c'est pas comme pensait beaucoup que ça allait arriver, le MP, mais le PS, Barbier, qui arrive avec 28,85. Mais lui, il n'a pas perdu 1000 voix, il en a perdu 10 000 par rapport à Moscovici il y a deux ans. Et le troisième, ben, c'est l'UMP de Mouges, 26,5% des voix, un jupéiste, qui se trouve exclu du deuxième tour. Alors tous les trois, ça fait 86% des voix, c'est vous dire que tous les autres partis, il y en avait un paquet, ils plafonnent au maximum à 3%, comme les Verts, ou à moins, comme le Front de Gauche et l'eau, ou le PC, quoi. Donc, on voit que ça, c'est vraiment, les votes se sont vraiment centrés sur ces trois partis. Alors, qu'en sera-t-il du deuxième tour? Ben, on attend que l'UMP se positionne. Les gens du Doubs bottent en touche en disant, oh là là, on va laisser les Parisiens décider. Qui décide de soutenir le Front National ou qui décide de soutenir le PS, ce qui m'étonnerait aussi. Alors ça peut être le Nini, hein, cher Sarkozy. Dans tous les cas de figure, leur position sera critiquable et critiquée. On va voir ce qui sort du chapeau demain matin. Voilà, alors le PS se satisfait quand même de cette deuxième place, évidemment, en n'hésitant pas à instrumentaliser le 11 janvier comme l'origine de ce petit sursaut qui lui fait gagner 2% sur l'UMP. Ça donne des phrases comme « faire vivre l'esprit du 11 janvier ». Ouais. Voilà, l'UDI a déjà appelé à voter PS. Logiquement, on peut penser qu'un des reports de voix et peut-être des mobilisations de ceux des 10 000 qui n'ont pas été votés feront que la semaine prochaine, c'est le PS qui passera. Mais quand même. Alors, à noter quand même que les 17, si jamais le PS la gagne, celle-là, les 17 partiels qui ont eu lieu depuis les précédentes élections ont toutes été perdues par le PS. Donc, ils sont très contents de se retrouver au deuxième tour ce soir. Voilà, tu avais peut-être un autre commentaire à faire là-dessus.
Non, pas sur ce sujet, mais au niveau des élections, on va simplement rappeler que bientôt ce seront les élections pour les conseils généraux, devenus des conseils départementaux, qui perdront beaucoup de plumes au profit des conseils régionaux. Leur compétence va être réduite à travers une loi qui est nouvelle et qui provoque d'ailleurs beaucoup de désarroi. Alors déjà, dans le cadre d'élections où les citoyens se sentent peu mobilisés, Il est à craindre que le désastre s'accentue. Les candidatures seront déposées la semaine prochaine. Et puis, la campagne, elle a déjà un peu démarré, hein, un peu partout. Et les candidatures déposées la semaine prochaine. Et puis, la campagne va se dérouler du 22, du 20 février jusqu'à l'avant-veille du vote. Les votes, rappelons-le, ont lieu les dimanches 22 mars pour le premier tour et le dimanche 29 mars pour le second tour. Alors évidemment, les batailles, c'est on défend le département, mais pour faire quoi? Et en même temps, dans bien des cas, le département, eh bien, il n'a pas forcément bonne cote. Si on pense, par exemple, ce qui s'est passé en Bretagne, à Notre-Dame-des-Landes ou dans le Tarn, là-bas avec Sivens, où ce sont souvent des projets pour faire de l'emploi, mais des projets qu'on va dire souvent inutiles, qui sont patronnés, financés partiellement par les conseils généraux, les conseils départementaux. Donc là aussi, il y a un jugement sur le fond à porter sur les structures, et qu'il ne suffit pas de dire il faut défendre, et c'est une bonne cause, défendre la démocratie de proximité à travers ces structures, ces communes et ces départements. Mais la question est posée aujourd'hui par des générations nouvelles qui n'appartiennent pas à l'establishment et qui disent oui, d'accord, c'est bien de créer de l'emploi, mais de l'emploi, pas n'importe lequel.
Voilà, alors ce journal arrive bientôt à sa fin. Je vais vous donner quelques brèves quand même. Une bonne nouvelle, les pesticides seront supprimés par deux. Oui, oh. Dans l'agriculture, vous réjouissez pas trop vite, l'objectif c'est 2025. On dira aussi que le plan de licenciement de 149 personnes des trois Suisses a été annulé, ce qui devrait, par la justice, qui devrait engendrer des indemnisations. Qu'à Toulouse, il y avait une manif de 600 personnes anti-cession de l'aéroport au capitaliste sino-canadien. Que RATP a passé à Alstom une commande de 217 métros, ce qui va représenter 2 milliards d'euros sur 15 ans, soit 2000 emplois pendant 10 ans. Acheté français. La loi Macron, on en a découvert une nouvelle, l'idée de faire passer les permis de conduire par les facteurs. Et pourquoi pas affecter les inspecteurs du permis de conduire à gaver les oies pendant qu'on y est. Il y a une menace sur les APL. Le gouvernement dépense 46 milliards par an pour le logement, financement de HLM et autres. Et il serait question d'essayer de récupérer une partie de cette somme en réduisant les prestations, entre autres, par exemple, assujettir les aides aux étudiants, au logement étudiant, aux revenus des parents. À la BD d'Angoulême, l'Arabe du futur est parti avec le prix, mais il y a aussi des mouvements sociaux, à savoir 500 auteurs de BD, dessinateurs et autres scénaristes ont manifesté dans la rue face à la paupérisation de leur situation actuellement. Voilà, j'arrive au bout. Je veux juste vous dire culturellement que le voyage, un texte de Pirandello, sera donné par Françoise Gambet. Je cherche où c'est. Eh bien, c'est vendredi 6, samedi 7, dimanche 8, au Castelcom, hein, c'est à Anse, dans le Rhône. Quand l'ENM, le Geneva Funk, les mercredis, mardi et mercredi, demain après-demain, salle Antoine Duhamel, par le Big Band Jazz, c'est de la musique et le Trio Blast. Et puis, du 3 février au 21 mars, une exposition maths et musique à la galerie de la BU, BU Sciences, Bibliothèque universitaire de sciences de la Loire. Voilà, ce Canu Info sera diffusé demain matin à 8h. Vous devriez pouvoir le retrouver dès ce soir sur Internet. Ne quittez pas l'écoute.
Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα.